Alors, bonjour à tous. Donc, on est présent, du coup, Romain Avouac, Frédéric Comte, Shiraz Adamali. On travaille à l'INSEE et plus précisément à la DSI, donc à l'informatique, et dans une unité innovation qui a pour principal objet de créer un projet et une plateforme de données, enfin des plateformes de données, et en l'occurrence une plateforme ouverte. Et c'est un peu pour ça qu'on vient vous présenter ce projet, c'est parce que c'est pas pour faire de la pub. C'est parce que c'est une plateforme qui est ouverte, qui crée du service pour à peu près tout le service public, les écoles, de formation et pas mal de monde. Et c'est ouvert et ça permet souvent de lever, comme on va le voir, certaines limitations traditionnelles de la manière dont on travaille informatiquement. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui. On vient parce que sur recommandation d'utilitaires, je crois, qui ont vendu notre produit. Donc bien sûr, on travaille beaucoup avec eux, on a des communautés qui sont très proches. Mais la présentation qu'on va faire aujourd'hui est quand même un peu plus orientée informatique. On va parler de R, on va voir des exemples sur R, mais on va voir enfin un peu quelque chose d'un peu plus méta, on va dire, sur OK, faire du R, c'est une chose, mais où est-ce qu'on le fait en fait en termes d'environnement? C'est un peu ça la question qu'on va se poser. Quel est l'environnement pertinent aujourd'hui pour traiter de la donnée sur R par rapport à ce qui se faisait avant? Voilà, c'est un peu de ça dont on veut parler et présenter notre solution au passage. Du coup, voilà, la question par laquelle on va commencer, c'est un peu de savoir comment vous travaillez en fait, parce que nous, on sait comment ça marche à l'INSEE, on sait qu'il y a une grande diversité, mais on voulait d'abord se poser un peu de questions sur, pour savoir quel est votre contexte en fait. Donc vous, par exemple, sur le fait de faire du R, est-ce que c'est sur poste de travail? Est-ce que vous travaillez sur votre ordinateur? Est-ce que vous travaillez sur des serveurs, enfin une infrastructure centralisée qui ressemble à un poste de travail peut-être avec Windows, etc. Voilà, on voudrait savoir un peu, avant de commencer, à quoi ça ressemble en fait votre utilisation de R au quotidien.
Regardant la zone des discussions, machine perso en local.
Voilà, c'est intéressant parce que c'est un peu les réponses auxquelles on s'attendait. Parce qu'en fait, ce qu'on remarque en faisant ces présentations, c'est que la situation, elle est un peu la même partout. Donc là, on a mis l'informatique dans le SSP, donc le service statistique public. Bon, l'INED est quand même un cousin du SSP, je pense, en l'occurrence. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un peu la même chose partout. Donc, il y a eu un rapport de l'inspection générale pour décrire les statistiques de l'INSEE qui parlait d'une communauté d'artisans. Dans le sens où c'est plein de gens qui sont très bons dans ce qu'ils font, mais qui sont un peu isolés et qui font chacun un peu leur truc de leur côté, quitte à réinventer un peu la roue, et avec une grande diversité de pratiques, en fait. Et je pense que ça ressemble assez de ce que vous me dites, c'est-à-dire qu'on voit d'une part une diversité des langages de programmation. Donc, chez nous, on a beaucoup de SAS. Bon, maintenant, la transition vers R se fait assez vite. J'imagine que c'est chez vous, c'est assez le cas, même si vous me disiez qu'il y avait quand même encore pas mal de SaaS. Et il y a une diversité des environnements de travail. Donc ça, on a un peu la même chose que ce que vous nous avez raconté en fait, hein. Beaucoup de gens qui travaillent sur leur poste personnel parce que juste c'est la manière, on va dire, peut-être la plus intuitive de faire, mais aussi une infrastructure, enfin plusieurs, en tout cas souvent différentes infrastructures qui peuvent être un peu mutualisées avec un peu plus de ressources. Mais voilà, globalement, des environnements de travail où c'est pas très lisible, quoi. Il n'y a pas de recommandations claires et il y en a qui sont sur poste, il y en a qui sont sur infrastructure, etc. Et ça, ça pose un peu des problèmes pour savoir comment traiter de la donnée, notamment quand on arrive sur des use cases un peu émergents, donc typiquement des données volumineuses, des données un peu non standard. Voilà, on est très vite limité. Donc, on veut d'abord vous faire passer un peu cette intuition de pourquoi on se pose la question de fournir une plateforme de données. Qui change un peu les pratiques et pourquoi finalement travailler comme on travaille d'habitude, c'est peut-être un peu insuffisant dans le contexte actuel. Donc du coup, vous nous avez dit que vous travaillez beaucoup sur poste de travail. Donc est-ce que vous avez, enfin, on peut commencer par parler des avantages. Donc quel est l'avantage principal? C'est ce qu'on a dit, hein, c'est intuitif, c'est relativement simple et c'est un peu ce qu'on a toujours, c'est l'habitude, quoi, c'est ce qu'on a toujours. Ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire on a notre poste de travail, on le connaît assez bien, on installe R, on installe Git, on installe plein de trucs. Si on a la chance d'avoir les droits administrateurs sur son poste, en tout cas, ce n'est pas toujours le cas. Voilà, mais globalement, c'est relativement simple et c'est un peu l'habitude et c'est pour ça qu'en fait, on fait ça. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, hein, dans le monde émergent de la donnée, enfin, qui a quand même pas mal émergé, mais dans le monde de la donnée un peu volumineuse, un peu, j'imagine, vous êtes amené maintenant à traiter à l'INED. Ça a quand même pas mal d'inconvénients. Notamment, j'imagine que vous avez déjà été confronté à ça, mais la puissance, hein, les ordinateurs, et en général qu'on a, c'est des ordinateurs de bureau qui sont puissants, mais souvent qui vont être assez limités. Donc je pense que ça vous est arrivé à tous de traiter des données en R et de voir que c'est la RAM qui crache et que du coup, bah, vous ne pouvez pas. Et vous, du coup, vous devez redoubler d'ingéniosité pour réussir à faire passer les choses, quitte à paralyser un peu les calculs, etc., etc. Bon, voilà, ça, on voit une limite assez claire du poste de travail. L'autre problème, et dont on va beaucoup parler aujourd'hui, c'est le sujet de la reproductibilité. Donc, ça, c'est un sujet, j'imagine que vous êtes pas mal orienté sciences ouvertes et reproductibilité à l'INED, et nous, c'est un sujet qui nous intéresse aussi beaucoup, parce qu'on considère qu'en statistique, c'est vraiment un critère de qualité essentiel, quoi. C'est-à-dire la capacité à non seulement produire des chiffres, mais pouvoir les reproduire, en fait, un an, deux ans, trois ans après. Et en fait, c'est rarement le cas, vraiment. Et ce poste de travail, bah, la façon dont on travaille, limite la reproductibilité, on en reparlera un petit peu, mais pour le dire vite, en gros, bah, j'imagine que vous avez tous été confrontés à ça, mais quand vous utilisez R sur votre poste de travail, bah, vous installez plein de packages et au fur et à mesure, vous rajoutez en fait des packages. Des fois, par exemple, vous êtes obligé d'installer des librairies système. Donc, pas des packages R, mais autre chose. Par exemple, typiquement, si vous faites du géospatial, vous devez installer des trucs genre GEDAL et tous ces trucs-là. Et ça, en fait, le problème, c'est que vous l'installez et ensuite, tout marche bien, vous avez l'impression que tout va bien. Mais si du coup, vous partagez votre code à quelqu'un d'autre, vous pouvez être sûr que ça ne marchera pas et que la personne aura besoin d'installer tout ce que vous avez installé et dont vous ne vous rappelez absolument pas. Et donc, ce faisant, bah, la reproductibilité de votre projet, elle est quand même assez limitée. C'est-à-dire que ça, le bon fonctionnement de votre projet dépend vraiment du fait d'être sur votre poste de travail et pas celui d'un autre. Donc ça, c'est une autre limite qui est assez importante. Et la dernière limite, c'est le problème de la sécurité parce que du coup, bah, les données, elles sont sur chaque poste de chaque personne, en fait. Et du coup, on a une dispersion des données qui se retrouve un peu partout chez tout le monde, au lieu de les avoir à un endroit qui pourrait être un peu plus sécurisé. Voilà. Donc ça, c'est le poste de travail. Donc, c'est un peu l'infrastructure, on va dire, traditionnelle que tout le monde utilise. Et tout le monde connaît un peu à la fois ses avantages et ses inconvénients. Donc, vous nous avez dit que vous aviez aussi des infrastructures mutualisées, que nous, on appelle un peu traditionnelles, dans le sens où souvent, bah, ça ressemble, pour être facile d'utilisation, il y a un bureau qui ressemble à Windows, etc. Donc, voilà, c'est déjà une étape en avant vers l'idée d'avoir quelque chose de centralisé, de mutualisé. Mais là encore, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, quels sont les avantages? Là encore, c'est relativement simple, mais pour des raisons un peu différentes pour le coup. Parce que justement, bah, on retrouve cet aspect, ça ressemble en fait à ma machine, c'est-à-dire il y a un Windows qui est installé, il y a un quasi-poste de travail, même si on est sur des serveurs un peu centralisés. Et donc voilà, on retrouve un peu cette idée d'habitude, mais voilà, pas pour les mêmes raisons, parce que bien sûr, là, on ne peut plus installer de logiciels, etc. C'est plus nous qui faisons les choses. L'autre avantage, du coup, c'est que c'est la puissance. Vu que tout est concentré en un endroit, qu'on a une infrastructure un peu centralisée, eh bien, on peut avoir beaucoup plus de puissance et ne pas être limité par les capacités de notre machine individuelle. Et ça, c'est quand même très pertinent dès qu'on traite des données de taille un peu raisonnable. Et on a une meilleure sécurité des données. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, mais en tout cas, on s'avance vers ça. Parce que, encore une fois, les données sont à un point central et c'est beaucoup plus facile de sécuriser quelque chose qui est à un point donné auquel tout le monde accède plutôt que des données qui sont dispersées sur toutes les machines des gens. Voilà. Et ça couvre en fait la majorité des usages, c'est-à-dire que dans la grande majorité des cas, peut-être 80-90%, c'est souvent comme ça que les DSI fonctionnent, avec une infrastructure un peu mutualisée comme ça. Et en fait, ça couvre la grande majorité des usages, c'est-à-dire que tout le monde s'y retrouve et en général, on peut faire ce qu'on veut pour la grande majorité des cas. Les inconvénients de cette histoire, c'est que là encore, la reproductibilité elle est faible. Pourquoi ? Bah parce que là non plus, c'est pas vous qui gérez l'environnement, c'est-à-dire en général, c'est des administrateurs système qui vont gérer la façon d'installer les choses, etc. Et vous arrivez dans un environnement, vous pouvez éventuellement demander à l'étendre, à l'améliorer, mais globalement, vous n'avez pas un contrôle total sur l'environnement et donc c'est assez dur à rendre productif. Et l'autre problème, c'est les difficultés à innover parce que du coup, voilà, en général, vous êtes dans un, comme on l'a dit, hein, vous n'avez pas trop le contrôle de l'environnement, vous êtes dans un carcan assez limité qui couvre la majorité des usages. Mais la question qui se pose, bah, c'est qu'est-ce qu'on veut faire quand on est dans les, on va dire, dans les 10-20% des usages qui veulent innover, qui veulent utiliser des nouvelles données, utiliser des données très massives, utiliser des données qui utilisent non plus du R, mais peut-être du Python et d'autres choses. Enfin, voilà, si on a besoin d'autres services, d'aller plus loin, on va dire, eh ben, on se retrouve assez limité dans ces infrastructures traditionnelles. Et donc, voilà, là, c'est un peu les deux infrastructures classiques dont vous nous avez parlé et qu'on retrouve un peu partout.
Ça, c'est un enjeu hyper important parce que c'est vrai que nous, côté DSI INED, bah, pendant très longtemps, ça nous suffisait, quoi. On remplissait 90-95% des usages et bah, les cinq derniers, bah, tout le monde s'en fichait, quoi. C'était tant pis pour eux, quoi. Sauf qu'en fait, ces 5 derniers pourcents, c'est finalement ceux qui font avancer l'Institut. Et c'est tous les, c'est l'avenir en fait qui joue là, c'est notre capacité à embaucher de nouvelles personnes. L'infrastructure, c'est devenu un enjeu aussi, parce que les gens, ils n'aiment pas travailler dans des endroits où l'infrastructure est très limitante. Et donc pour nous, c'était un enjeu fort de proposer une infrastructure à l'état de l'art, engageante, voilà, et qui permet à l'Institut ensuite d'innover et d'être un peu à la pointe.
Donc du coup, on l'a vu, hein, les deux limites de ces infrastructures qu'on a vues jusqu'à maintenant, c'est vraiment le problème de la reproductibilité, qui je pense en recherche pour vous est quand même essentiel, et pour nous aussi bien sûr, même si pour des raisons différentes, et les difficultés à innover. Donc revenons un peu là-dessus, hein, l'enjeu de la reproductibilité, bon je pense que vous y êtes très bien sensibilisé, mais c'est l'idée que bah, voilà, si quelqu'un reprend mon code et mes données, globalement il est capable de reproduire les mêmes résultats. Et en fait c'est assez peu le cas en général, pour plein de raisons, des raisons qui peuvent être liées à la qualité du code, aux données, etc. Mais souvent, c'est lié au fait aussi qu'on n'a pas forcément les moyens techniques de le faire, comme pour toutes les raisons qu'on a vu jusqu'à maintenant, que si on travaille sur son poste de travail ou sur une infrastructure mutualisée, eh ben, c'est un peu compliqué d'atteindre cette reproductibilité parce qu'on est limité par l'environnement. Et donc, du coup, bah, la reproductibilité, c'est un peu un spectre où, bah, classiquement, les chercheurs publient juste un papier. Et en fait, on ne pourra jamais reproduire vraiment les résultats. C'était un peu la façon de faire jusqu'à maintenant. Et quand même, les revues s'orientent de plus en plus vers quelque chose qui va vers la droite de ce spectre. Et l'idée de dire, bah, en fait, c'est bien de donner un papier et de décrire comment on fait, mais c'est encore mieux de fournir son code, et c'est encore mieux de fournir le code et les données si possible. Et en fait, c'est encore mieux d'aller plus loin, parce que comme on l'a vu, le code tout seul, ça ne suffit pas, pour des raisons de librairie, d'environnement, etc. Et donc, on a envie d'aller plus loin et de fournir quelque chose qui est vraiment reproductible, c'est-à-dire la personne peut en fait à la fois voir le code, mais aussi l'exécuter avec l'environnement qu'il fait tourner, et donc vraiment reproduire les résultats, et ça, c'est quand même un gage de scientificité qui est assez net. Sauf que ça, techniquement, c'est pas si simple, et sur les infrastructures qu'on a vues tout à l'heure, qui sont assez classiques, bah, c'est super dur à faire. Et donc là, ce qu'on veut proposer avec notre solution, bah, c'est quelque chose qui est vraiment, reproductibility first, c'est-à-dire qui est vraiment techniquement orienté pour justement garantir cette reproductibilité. Et l'autre problème, c'était bah, donner les moyens d'innover, c'est ce qu'on a vu, hein, ce qu'on disait sur les 10%, 5-10%. Donc, ce n'est pas dans une perspective élitiste, mais c'est vrai que c'est ça qui fait quand même avancer les usages, d'aller plus loin et d'essayer de défricher de nouvelles manières de calculer des statistiques, etc. Et donc, de nouveaux outils. Et donc, fournir des ressources, notamment. Donc, typiquement, hein, c'est ce qu'on a dit, on en a parlé tout à l'heure, mais quand on commence à avoir des données qui sont hyper volumineuses, qui est quand même une tendance vers laquelle on s'oriente, bah, on a envie de paralléliser les calculs. Donc typiquement, de découper les calculs sur différents niveaux, enfin différents cœurs du processeur ou quelque chose comme ça, pour pouvoir paralléliser ce qui tout seul, enfin ce qui en tout cas ne serait pas assez performant pour le faire en une fois en termes de calcul. Des fois, les données sont même trop grosses pour passer sur une seule machine, et donc on a envie de passer à du calcul distribué, par exemple, ce qui est assez à la mode. Donc par exemple, si vous avez entendu parler de Spark ou autre chose comme ça, c'est l'idée, c'est de dire, bon, bah, une seule machine, c'est trop gros, on ne peut pas la faire grossir. Par contre, si on prend plein de petites machines qu'on met en réseau, finalement, on peut couper les calculs en blocs et chaque machine va s'occuper d'une petite partie. Et ça, c'est assez à la mode pour traiter des données massives. Sauf que, bah, voilà, avoir un environnement, justement, qui permet de faire ça avec des choses comme Spark et du calcul distribué, c'est assez rare dans les DSI. J'imagine que ce n'est pas le cas pour vous. Enfin, je ne sais pas trop Humanum, mais j'imagine que non. Et donc ça, bah, c'est aussi quelque chose qu'on propose sur cette solution qu'on va vous proposer. Et enfin, bon, bah, voilà, d'autres choses, par exemple, le machine learning, ça aussi, ça arrive pas mal à la mode pour des use cases, notamment, par exemple, je sais pas, de la détection de choses sur des données satellites, des choses comme ça. Enfin, c'est des choses qui commencent à arriver dans la statistique publique. Et ça nécessite des outils particuliers, notamment des GPU, c'est-à-dire des puces graphiques qui permettent de faire ces calculs qui sinon prendraient un temps infini. Et donc voilà, ça aussi, c'est des ressources qu'on trouve rarement et que là, on vous propose, si vous en avez besoin, sur des problématiques open data. Donc, l'autre problème, c'est de passer du développement à la mise en production. Donc, c'est l'idée de dire, bon, bah, en général, quand on expérimente ou quand on écrit un papier, bah, en fait, on fait un peu, on est dans une phase de développement. C'est-à-dire, on développe un truc en se disant, bon, bah, moi, ma solution, il faut qu'elle fasse ça et qu'elle produise des résultats. Mais en fait, j'ai l'impression, en voyant la recherche, c'est quand même souvent maintenant valorisé l'idée de, ben, je ne sais pas, par exemple, pour mettre à disposition des données ou mettre à disposition des résultats d'un papier, de produire une application interactive. Donc, par exemple, avec AirShiny, j'imagine que ça doit être un use case qui arrive souvent pour vous. voilà, l'idée de mettre à disposition du public une app de visualisation qui rend le papier plus visible et plus interactif, c'est quand même quelque chose qui est super, mais techniquement, ce n'est pas si simple en fait. Comment on fait pour héberger une application 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui doit être disponible, qui doit s'adapter à la charge des utilisateurs qui viennent la requêter, etc. C'est quelque chose sur lequel souvent on n'a pas les solutions techniques. Cette plateforme, encore une fois, qu'on vous propose et qui vous est ouverte, vous permet de faire ça. On ne dit pas que c'est extrêmement simple. On vous fera une démo justement exactement de ça tout à l'heure pour voir un peu l'idée. Mais globalement, voilà, c'est l'idée. Et l'autre cas qui peut vous arriver et qui arrive souvent, c'est l'idée d'avoir une récupération de données périodiques. Souvent, ça arrive qu'on veuille produire des chiffres en récupérant de manière régulière des données. Ben, ça non plus, ça implique d'avoir un programme qui tourne régulièrement. Ce n'est pas si simple. Et voilà, donc cette question de passer du développement à la mise en production, c'est quelque chose qui requiert certains outils techniques qu'on vous propose en l'occurrence. Voilà, donc c'était un peu abstrait tous ces concepts, mais c'était pour vous donner envie, on va dire, pour vous expliquer pourquoi on vient faire la pub de ce truc-là. Et c'est justement pas pour faire la pub, mais pour vous dire qu'il y a certains usages innovants auxquels vous allez être confrontés qui peuvent être résolus, enfin, en tout cas traités par ce genre de plateformes qui sont à votre disposition.